Le thème de l'enseignement de ce soir est l'effort juste. Et c'est tout un poème. Car, comme on le sait, notre énergie fluctue. Que l'énergie du matin n'est pas la même que celle du soir, ni du midi. Que celle du premier jour n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Et qu'il y a vraiment beaucoup de fluctuations d'énergie. Et cette qualité mentale ou ce facteur mental d'effort est toujours très intéressant. Et il est très présent dans l'enseignement, mais vraiment très présent. C'est un facteur mental qui apparaît dans l'octuple sentier, donc le chemin, en compagnie de l'attention et de la concentration. Il apparaît dans les cinq facultés spirituelles, qui sont les cinq qualités qu'on développe et que vous retrouvez à nouveau. L'attention, l'investigation, l'énergie, la concentration et la sagesse. Il apparaît dans les sept facteurs d'éveil, dont je parlerai un jour lors de cette retraite, car c'est vraiment des facteurs extrêmement porteurs qui mènent à l'éveil. L'effort apparaît dans les quatre pouvoirs mentaux et c'est un des 10 paramis. Donc vous voyez qu'il y a une place de choix, autant que l'attention. Et vraiment, si on lit les sutras, qu'on s'intéresse un petit peu aux textes les plus anciens, il y a un incroyable nombre de sutras qui incorporent cette dimension, cette qualité. En gros, pas d'accomplissement sans effort. Maintenant, quel type d'effort? Il y a deux termes qui, en langue pali, font référence à cette dimension-là. Un, c'est le terme de vayama, et on dit sama-vayama dans le sens d'effort juste, qui déploie vraiment une dimension de courage, d'avoir de l'entrain, de la vigueur, une certaine énergie avant de se mettre en route. Et c'est très intéressant de percevoir que dans le cheminement, et que ce soit pour la méditation ou pour notre vie d'ailleurs, hein, cet aspect permet à ce que le cheminement progresse et bien sûr puisse être accompli. Donc ça, c'est la dimension de l'effort, dans le sens de effort juste dans ce contexte. Et puis, il y a cet autre terme en pali qui est plus courant, qu'on voit apparaître plus souvent, qui est viriya. Et viriya, c'est plus dans le sens d'énergie. L'énergie mentale. L'énergie dans le sens de constance. Dans le sens de persévérance. De pouvoir vraiment avoir non seulement une qualité d'attention instantanée, mais que progressivement, celle-ci va devenir de plus en plus stable, de plus en plus constante, et qu'on souhaite ceci. Donc, c'est vraiment en lien avec cette dimension d'attention qu'on cultive à chaque instant. L'énergie qui demande à être cultivée, et lorsque on mentionne le terme de continuité, c'est vraiment cette dimension-là qui est cité. Ensuite, il y a cette compréhension que progressivement au niveau de ses efforts, ce qui se passe d'une façon très aisée et très naturelle, mais qui prend un certain temps, c'est que progressivement les perturbations mentales, ce qu'on peut appeler nous par moments les obstacles, c'est-à-dire la somnolence, l'agitation, le doute, désir attachement et aversion, qui sont les cinq principales qui sont souvent citées comme difficiles, eh bien, ont tendance à s'atténuer. Et à ce moment-là, une nouvelle énergie peut progresser et qu'on peut naturellement trouver en soi une nouvelle énergie par le biais de nouvelles qualités qui sont exactement à l'inverse de ce que je viens de citer. Il y a de la confiance à la place du doute. Il y a naturellement de l'énergie mentale à la place de la somnolence ou de la torpeur. Il y a de la tranquillité à la place de l'agitation. Et puis il y a cette dimension d'ouverture, hein, l'inverse de l'attachement et du désir, il y a la générosité. À l'inverse de l'aversion, il y a cette dimension de bienveillance. Donc progressivement, ceci se passe, une trame, comme un processus qui se déploie. Et on peut tout au long du chemin avoir en présence, bien sûr, au niveau de l'attention, la présence d'un moment d'agitation, d'un moment de doute. De la même manière, on peut avoir la présence et la clarté et de pouvoir se rendre compte d'un moment de non-agitation, de calme. Donc tout ceci se déploie. C'est un chemin qui progresse. Donc au niveau des quatre efforts, on s'écarte de plus en plus de cette dimension, si on veut, dans la progression, on le sent très bien, si on chemine un peu, que ces états de perturbation sont grossiers, puis que lorsqu'il y a un petit peu plus de stabilité, eh bien, ces nouvelles qualités commencent à émerger, très naturellement. Et donc, on choisit à ce moment-là de soutenir ce qui est salutaire, ce qui est bénéfique. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas constant, hein, ce n'est pas stable. Mais quand même, on donne quelque part un éclairage et on soutient ce qui est bénéfique pour nous. Donc, à chaque instant, nous avons quelque part la possibilité d'une certaine découverte et de vraiment soutenir, progresser au contact de ce qui va être salutaire. Et ça, c'est désirable. Donc, nous ne sommes pas d'impuissantes et passives victimes de notre destin. Ça rejoint vraiment ce qu'a dit Charles hier soir. Nous ne sommes pas des pions animés par des forces supérieures non plus. C'est vraiment tout un cheminement qui progresse au contact de notre capacité à demeurer en présence. Et nos expériences ne sont pas prédestinées. Et ça, c'est vraiment très important parce que je crois que à chaque instant, nous pouvons choisir d'être présents ou pas. Au moment où il y a un potentiel de choix, il y a un potentiel de transformation. Et c'est très intéressant que l'enseignement dit, non seulement nous pouvons choisir, mais nous pouvons aussi éprouver et ressentir le résultat de ce choix. Et le Bouddha dit ceci, tout ce à quoi on pense devient la tendance de l'esprit. Tout ce qu'on va nourrir devient la tendance de l'esprit. Donc il y a vraiment toute une aptitude, une capacité extraordinaire à aller dans le sens de non-perturbation, d'absence de perturbation, même si bien sûr on va lutter contre l'aversion et se rendre compte que ben, tiens, la lutte, ce n'est pas franchement souhaitable. Et puis plutôt que de lutter, il y a un moment donné, on reconnaît et le reconnaître permet de percevoir que cet état est complètement éphémère, suivant les conditions, et qu'on peut donc se réjouir de se rendre compte qu'il est éphémère, que ça bouge, qu'il y a de la mobilité et qu'il y a beaucoup de vivacité dans ce processus. Et ça, c'est vraiment très important. L'énergie, l'effort de pouvoir aussi prendre en compte l'absence des perturbations. L'absence du désir attachement, l'absence de l'aversion, l'absence de tout ce qui nous perturbe. Et il y a plein de moments où il y a l'absence de ceci. Et ça, ça nous nourrit. Et ce qui permet d'avoir quelque part des ressources. Et de ces ressources, eh bien, il y a une disponibilité nouvelle. Donc on cultive ces qualités d'une certaine manière avec soin. Et plus on va les cultiver, plus naturellement, elles vont se développer. C'est cultivé au sens agricole. C'est vraiment, mais tellement clair que c'est terre à terre. C'est dans le sens de vraiment un cheminement, comme on cultive sa terre, comme on peut cultiver un jardin si on ne l'a jamais fait, et bien tranquillement, progressivement. Et je trouve que l'image, justement, est très parlante à ce niveau-là. Au niveau de combien on déploie d'efforts, et c'est plus de la constance que de quelque part forcer, s'arrêter. Forcer, s'arrêter. Donc c'est ni forcer ni abandonner. C'est vraiment dans le soin de la continuité. Et là, il y a un petit texte que je vais lire qui vient tout droit d'un sutra où le Bouddha parle à ses moines. Bhikkhu, ce sont les moines. Mais ici, dans ce contexte, on peut vraiment se considérer comme moine ou nonne ou pratiquant, noble pratiquant, comme ils disent. Et des supposés bhikkhus, donc pratiquants, qu'une poule ait 8, 10 ou 12 œufs, mais qu'elle ne les couve pas suffisamment longtemps et qu'il ne soit pas suffisamment bien réchauffé pour se développer. Cette poule pourrait désirer. Puissent mes poussins briser la coquille de leurs œufs avec leurs griffes et leur bec et naître en bonne santé. Mais il n'est pas possible que ces poussins puissent briser la coquille de leurs œufs avec leurs griffes et leur bec et naître en bonne santé. Pour quelle raison? Bhikkhu, pratiquant. Parce que la poule ne les couve pas suffisamment longtemps et qu'ils ne sont pas suffisamment bien réchauffés pour se développer. Il en va de même pour un pratiquant qui ne s'applique pas au développement méditatif de son esprit. C'est tellement parlant, le temps. Hein? Donc, on a peut-être l'impression qu'il ne se passe rien là sur ce coussin. Hein? On passe des temps et des temps et des moments et qu'on est là à couver et que peut-être un œuf va sortir. Il dit cependant, même si un pratiquant qui s'applique au développement méditatif de son esprit ne pense pas, puisse mon esprit être libéré des impuretés par le détachement, son esprit sera tout de même libéré, qu'on le veuille ou non. Pour quelle raison? Parce que son esprit est développé. Donc vous voyez que vous pouvez avoir confiance. Et en quoi est-il développé? Il nous répond, il nous donne la réponse. Qu'est-ce qui se développe? Eh bien, il dit, il se développe dans les quatre satipatthana, ce dont a parlé Charles il y a quelques soirs. Les quatre efforts corrects, les quatre pouvoirs, les cinq facultés, les sept facteurs d'éveil et le noble octuple sentier. Toutes les qualités émergent. Arrive. Donc cette énergie ou cet effort, on peut se demander, oui, mais alors quelle est la différence? Je veux dire, quelque part, de quoi parle-t-on ici? Quelle est Eh bien, c'est évident que ces deux dimensions, Virya et Samaya, sont vraiment en train, si vous voulez, elles marchent en tandem. Elles se déploient d'une façon très claire et on les voit souvent apparaître comme une paire de facultés que l'on voit fonctionner ensemble. On dit souvent, oh là là, j'ai pas assez d'énergie, donc je ne peux pas faire d'effort. Il faut que j'ai plus d'énergie pour pouvoir faire l'effort. C'est très souvent ça qu'on se dit, ici ou ailleurs d'ailleurs. Et en fait, il se peut que l'énergie viennent en premier et l'effort la canalise, puis la dirige au moyen de l'attention là où elle est utile. Là où elle est utile. Maintenant, il y a une autre dimension et un autre aspect qui fait que on peut tout à fait renverser la situation. Et pour moi, c'est vraiment été découvert bien plus tard en lien avec la pratique, c'est de faire l'effort et puis tout à coup découvrir une nouvelle énergie. Et vraiment, ça m'a été tellement utile, par exemple, par rapport à mettre autant d'enthousiasme ou d'ardeur pour la marche que pour l'assise, dans mon cas. J'étais extrêmement friande d'heures d'assises, de méditation en assise, et puis beaucoup moins pour la marche. Voilà. Donc, ça a été un temps dans ma pratique, ça. Et puis, il y avait vraiment une insistance de la part de la personne qui m'orientait à l'époque, m'enseignait, en me disant, non, mais c'est vraiment très important, l'équilibre de la marche et de l'assise. Il y a un besoin d'équilibrer ces deux aspects, et qui fait que s'il y a trop de l'un et pas assez de l'autre, eh bien, c'est un petit peu comme être... pas équilibré, être en déséquilibre. Donc, ici, dans ce déploiement d'énergie et d'effort, nous allons pouvoir découvrir que l'un nous aide au déploiement de l'autre. Donc, l'énergie, elle est mentale. L'effort va naturellement être un effort qui est de l'ordre de la continuité. Et c'est dans ce déploiement de simplement nourrir la présence. Et c'est vraiment là que se situe, ici même, dans ce contexte, la dimension de placer l'effort. Pourquoi ? Pour la présence. La présence prend ensuite le relais et va naturellement nous aider à pouvoir découvrir que lorsqu'il y a la reconnaissance, par exemple, d'un mouvement d'irritation, eh bien, elle a cette disposition, ce pouvoir, parce qu'il y a de l'énergie, de reconnaître simplement cet aspect comme éphémère et qu'il n'y a pas de saisie. Il n'y a pas d'attachement ou d'aversion ajoutée. Donc, ça va dans le sens du chemin et qui est un chemin de libération. Donc, c'est très bien d'être présent. Mais il y a aussi cette orientation à être présent pour aller à la libération, dans le sens de libérer l'esprit de ce qui le fait souffrir ou de ce qui le perturbe. Ça, c'est vraiment l'objectif, si vous voulez. Et on peut parler de diminution de tout type de mal-être. Alors, les instructions sont assez simples. Maintenant, de pouvoir vraiment aller à la rencontre de comment c'est, quelle est, qu'est-ce qui est propice à pouvoir aller dans le sens de la continuité? Eh bien, c'est la mise en pratique. Et là, on s'en remet à la présence. Comme je l'ai dit l'autre soir, avoir confiance dans cette présence. Cette présence est un refuge. Car elle-même va pouvoir être le facteur qui va être un facteur équilibrant par rapport à l'énergie. Ni trop peu, ni en excès. Et ça, c'est assez extraordinaire. Peut-être que vous l'avez déjà découvert. Vous l'avez déjà peut-être ressenti. Et c'est cette présence qui nous permet, en tout cas pendant un certain temps, de passer de ce mode conceptuel au mode intuitif. De vraiment vivre l'expérience plutôt que la penser uniquement. Vivre, la goûter, la savourer, l'éprouver si on veut. Et ensuite, bien sûr, il peut y avoir tout un déploiement d'interprétation. Voilà, donc on va naturellement, en tout cas, peut-être que je suis un cas unique, hein, mais on va apprendre l'effort juste en faisant trop d'efforts ou en n'en faisant pas assez. C'est comme la patience. La patience, comment on va l'apprendre? Quand on est en présence de l'impatience. Je suis impatiente. Et puis c'est en étant, ouh là là, mais il y a beaucoup d'impatience là. Oh, tranquille. Et tout à coup, on apprend la patience. Là, c'est la même chose. Au contact de l'agitation, je vais pouvoir découvrir ce qu'est, quelque part, l'énergie, m'accompagner, être en présence, et puis dire, tiens, voilà, ah, je suis en train de trop forcer, là. Et tranquille, lâche, détente, ouverture, pause. Donc, c'est comme ça. C'est impossible d'imaginer... On va avoir un effort juste ou approprié, hein, juste dans le sens d'approprié, ni en excès, ni en manque, parce que c'est constamment fluide, parce que c'est constamment en vie. Donc, ce n'est pas du tout un état particulier à atteindre, comme si on devait atteindre ce point fixe. C'est constamment en balancement, en fluidité, parce que nous sommes un organisme extrêmement vivant avec toutes ces différentes composantes. Donc, on apprend la détente au contact de la crispation. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. On apprend la détente au contact de la saisie, l'attachement, le désir de quelque chose d'autre. Que ce soit dans le mental, que ce soit dans le physique, c'est exactement le même processus, le même enchaînement successif de pouvoir tout à coup se dire « Ah voilà, là je suis vraiment en accord. Ah waouh, en accord avec la nature des choses comme elle est. » Et puis tout à coup, voilà, il y a une absence de difficulté, on sent, et puis un déploiement d'énergie. Et quelque chose tout à coup peut se relâcher. Ça peut être un nœud énergétique, ça peut être une douleur physique, ça peut être un état d'humeur extrêmement pénible, mille choses. Mais il y a toujours cette dimension de ça se déploie, il y a une ouverture, puis waouh, tout à coup ça peut se lâcher, un instant. Et ah, ça s'ouvre après, peut-être que ça se referme pour X raisons, parce que voilà, le cheminement prend du temps. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un effort qui tend vers la maîtrise, où je dois maîtriser. Et pour ma part, ça a été vraiment quelque chose que j'ai eu de la peine à entendre. Pas à comprendre, je le comprenais très bien intellectuellement, mais vraiment à entendre et pouvoir écouter cet aspect. Si on a la tendance à être un petit peu perfectionniste, certains ou certaines d'entre nous peuvent l'être, eh bien, on s'y prend dans la pratique de la même manière qu'on peut s'y prendre dans notre vie, où on veut bien faire les choses et être la bonne méditante. C'est ce que je pouvais vraiment... Et du coup, mettre un idéal et vraiment forcer. Et ça m'a été complètement inutile. Mais voilà, donc si vous pouvez l'entendre, maintenant vous allez faire votre propre cheminement, à votre propre allure, mais c'est vraiment aidant de pouvoir être aidé dans ce sens-là, deuxième attente. Voilà. Et en même temps, il ne s'agit pas d'être complètement relâchée et puis être paresseuse, puis se dire « bon, ben alors, la salle de méditation, non, peut-être demain, aujourd'hui, je vais aller me promener au village, ou je ne sais, un temps ». Donc, il y a vraiment cette dimension du juste milieu. Et pour tout ce cheminement, c'est un juste milieu. Ni trop, ni trop peu. Ni trop, ni trop peu. Et ça, c'est quelque chose qui se goûte progressivement. Et à nouveau, c'est pas grave s'il y a du contrôle. Vraiment de se sentir, voilà, c'est au contact du contrôle, de la maîtrise, comme j'ai pu vous l'exprimer, que je vais découvrir comment c'est d'être un petit peu tranquille par rapport à ça. Et de le vivre en conscience, plutôt que d'être soumise. Donc Sayadaw Itejanya, qui est un des maîtres birmans qui enseigne en Birmanie et ailleurs, lui, il avait vraiment un point extrêmement important. Il disait, tout est pratique. Je l'ai dit ça déjà, tout est pratique. Soyez absolument convaincus que tout est pratique. La continuité doit se faire, la pratique est dans toute activité, du matin jusqu'au soir, tranquillement. Donc cette dimension de constance, plutôt que, voilà, ici on est réunis, et puis forcément que dans cette salle, eh bien, c'est déjà donné d'être présent, plus ou moins. Mais bon, après on peut s'évader au niveau de son esprit, mais quand même, il y a une posture... On est là, il y a les enseignements qui sont donnés. Et puis, à nouveau, pour ma part, je faisais vraiment... Tout l'effort était porté sur la pratique dans l'assise. Et puis après, ben voilà, je me donne un petit peu des plages. Mais ce qui est bien, mais voir de quelle manière on le fait, de quelle façon on le fait. Et si on peut être très présent tout en marchant à un rythme tout à fait normal dans la cour... Ça ne veut pas du tout dire absolument ralentir, Mais voilà, on est au contact. On regarde un arbre, on entend un oiseau, puis on est là. On vit au contact de la nature et des choses qui se déploient. Donc ça, c'est nourrir cette présence attentive. Maintenant, au niveau de l'énergie mentale, ce même Saïdo nous disait, faites un exercice et on va le faire. Vous voulez bien joindre vos mains? Voilà, donc peut-être que vos pouces se touchent. En tout cas, il y a un contact qui s'établit là. Vous pouvez connaître les sensations qui sont dans vos mains? Sentir? J'imagine que oui. Ça demande beaucoup d'efforts? Non. C'est exactement cet effort-là. Si on n'est pas présent, qu'on est distrait, on ne va pas être conscient de ces sensations. Mais on est là, on est pleinement présent. Mais au niveau de l'effort, de l'énergie mentale, est-ce qu'elle est forcée? Non, elle est douce. C'est cette énergie au fil du temps, pas plus. Mais il y a ce contact. Donc, avec détente et douceur. Donc ça change un petit peu la donne. Je ne sais pas si on s'imaginait qu'il fallait vraiment nourrir beaucoup d'efforts, mais vous pouvez vraiment tenter de temps en temps cet exercice. C'est immensément aidant pour se rendre compte. Les gens voient, c'est waouh! Mais c'est vrai. C'est en fait l'effort du non-effort. Et donc ça a trait avec cette qualité qui peut naturellement être nourrie d'instant en instant. Et vous le savez peut-être, un de mes premiers maîtres a été Dilgo Khyentse Rinpoché. Et je lisais pas plus tard qu'hier un petit commentaire de Dilgo Khyentse Rinpoché sur un texte de Mipham qui s'appelle Le flambeau qui dissipe la confusion. Et c'est exactement ces quelques phrases que Dilgo Khyentse Rinpoché commente sur ce texte ont trait exactement à cet aspect. La présence attentive ne se développe pas immédiatement. Il faut persévérer. Il faut être présent non seulement dans l'assise, mais en toutes circonstances. Lorsqu'on mange, lorsqu'on se déplace, lorsqu'on se lève, il est nécessaire d'être constamment vigilant, être attentif à l'état de notre esprit. Et voilà. C'est tout simple. Alors justement, on entend ça, puis on se dit, waouh! Alors vraiment, il n'y a pas une seconde que je dois perdre. Voilà. Et du coup, je me tends. Hein? En tout cas, moi, je lis ça et si je n'ai pas la pratique que j'ai aujourd'hui, heureusement, je me dis, oh non, mais alors, pas une seconde. Voilà. Et on se tend. Alors, c'est une intention, c'est une disposition d'esprit, c'est une énergie douce. Ça va dans ce sens. Mais à nouveau, la présence est. On n'a pas à la créer. Et c'est là que c'est extraordinaire, c'est exactement dans ce sens, c'est se poser la question, mais qu'est-ce que je fais pour être absent? Charles a cette phrase, qu'est-ce que je fais pour être absent? Donc c'est comment je fais pour m'éloigner? La présence, c'est l'aise naturelle quelque part. L'esprit peut reposer sur lui-même, la présence peut reposer dans ce corps. Donc ça va dans ce sens de pas plus d'efforts, mais vraiment quelque part, waouh! Plus de présence pour simplement découvrir cet être naturel, cette qualité naturelle qu'on a perdue parce que voilà, on s'affaire, parce qu'on s'agite, parce qu'il faut accomplir, parce que voilà, à partir de ça, on ne peut pas vivre dans l'être quand je vais rentrer chez moi. Et oui, on est beaucoup plus, quelque part, si on veut parler d'efficacité, beaucoup plus efficace si on est justement posé, détendu, et qu'on va à la rencontre de ce qu'on a à faire plutôt que excité, agité, complètement. Donc, c'est extraordinaire que ça peut permettre à cette dimension d'être d'accompagner, de nous accompagner dans la vie et qu'à partir de là, il y a l'agir. Donc, c'est pas l'être ou l'agir, c'est l'être et l'agir. Et qu'il y a toute une dimension entre l'être et l'agir. Et c'est pour ça que la méditation dans l'action est tellement, tellement aidante. Dans le sens qu'ici, on agit, on mange, on se douche, on marche, on descend les escaliers, attentivement, sans tomber, à la mesure du possible. Donc ce maître dont on parle quand même souvent, Joseph Goldstein, qui naturellement était au niveau d'un maître extrêmement constant dans mon cheminement méditation, lui dit, si vous avez envie d'établir une hiérarchie par rapport à votre constance et votre habileté à déployer vraiment et à nourrir la présence, s'il devait y avoir une hiérarchie, mettez en tout premier, tout en haut, les transitions. Les transitions. Prendre soin des transitions. De la position assise à la position debout. Se poser. Voilà, je me lève, lever. Aller marcher. Aller d'un endroit à l'autre. Parce que c'est exactement là. Que la plupart du temps, on vit dans notre vie et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fuites. Mais ça, comme une exploration à nouveau. Mais vraiment dans le sens d'un jeu et pas d'un devoir. Hein? Alors ça, c'est absolument essentiel de l'entendre dans ce sens-là, parce que sinon, vous allez souffrir pour rien. C'est inutile, mais en tant que découverte. Donc, il disait les transitions, puis ensuite la marche en deuxième, et en dernier l'assise. Pourquoi? Parce que on a déjà cette qualité-là. Donc, ça permet d'aiguiser un tout petit peu plus, voire même beaucoup plus. Donc, c'est immensément aidant. Et cette exploration, à ce moment-là, elle est fascinante. La pratique, elle est tellement vivante et dynamique, et elle implique forcément qu'en toutes circonstances, il peut y avoir cette extraordinaire capacité de découverte de soi-même. Par moments, moi, je sais que c'est. Moi, je m'arrête, puis je dis, mais qu'est-ce que c'est que cet être que j'appelle moi? Je. Et dans un moment de présence, il est où le moi? Il est où celui qui marche ou celle qui marche? Il est où? C'est extraordinaire comme qualité de là, l'énergie qui se déploie et qui s'intéresse justement à cette dimension au sens du Dharma. Et bien sûr, on parlera un petit peu plus et voir beaucoup plus de cette dimension de toujours avoir un sentiment du moi qui est un sentiment, hein, et qui fait qu'on s'approprie la marche. Qu'on est le marcheur ou la marcheuse et que par moment, quand il y a cette disposition de simple présence, eh bien, peut-être qu'on découvre autre chose. Donc, il faut aussi faire attention aux préjugés. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment un piège de dire l'assise, c'est mieux que la marche. Et on a des préjugés, on suppose, parce que forcément il y a plus de calme, plus d'immobilité. Et en réalité, c'est extraordinaire. Parce que j'ai presque un peu de gêne à dire ça, mais, je sais pas, mais je sais marcher, pourquoi est-ce que je marcherais? Ça paraît tellement ridicule. Comme si je mettais un avis complètement, c'est un jugement. Il n'y a rien de nouveau à découvrir. Et ça, c'est vraiment une vue fausse, une vue erronée de l'esprit. Et donc, de marcher à un rythme qui n'est pas celui de notre habitude, de rompre avec les habitudes, de pouvoir découvrir ceci. Et que peut-être que l'exploration, et moi, l'exploration, elle a beaucoup été au début, que je m'y suis mise avec de l'aversion dans mon esprit. J'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai de l'aversion. Mais je le fais quand même. Voilà, c'est là que se déploie l'effort. Je le fais quand même, parce qu'en fait, voilà, je peux marcher avec l'aversion. Puis c'est absolument fascinant que l'aversion, à ce moment-là, n'est pas un problème. Elle est juste reconnue pour ce qu'elle est. Puis l'instant d'après, waouh! Plutôt que de s'arrêter à un état d'esprit, à une idée, à un préjugé, à une supposition. C'est comme ça que le cheminement peut progresser. Et à ce moment-là, inimaginable, il n'y a plus de problème. L'instant d'après, il y a de la curiosité et une nouvelle énergie qui émerge. Donc ça, c'est vraiment investiguer et pouvoir aller dans le sens de commencer à révéler ce qu'on appelle le dharma, c'est-à-dire la loi de la nature, d'un corps et d'un esprit. Et moins être en train de vouloir satisfaire mes petits besoins perso, personnels, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, voilà. Il y a bien sûr de ça, mais il peut y avoir aussi l'énergie de découvrir ou d'explorer aussi cette énergie qui nous porte vers le dharma et qui est bien sûr à ce moment-là quelque chose avec lequel on se familiarise, cette nouvelle perspective de percevoir toute la nature de cet être comme étant un dharma au contact de la nature qui est aussi un dharma. Donc là, il y a vraiment un lien de la présence et de l'expérience personnelle et corporelle et aussi de cette expérience plus impersonnelle qui va nous lier à la vue juste. Donc, pas de distance, pleinement conscient, sans forcer. Et à nouveau, une des idées qu'on peut avoir, c'est que on voit d'autres personnes marcher très lentement. Puis c'est pas du tout notre rythme. Je dis, ah non, mais si les autres marchent lentement, c'est en fait il faudrait marcher lentement. Puis du coup, c'est peut-être pour ça que je marche pas. Moi, je me rappelle que j'avais beaucoup de peine à marcher lentement. Est-ce qu'on vous a dit de marcher lentement? Vous nous avez entendu dire, faut marcher lentement? Si jamais il y a une personne qui l'a entendu, dites oui. Personne dit oui. Mais qu'est-ce qu'on a comme idée? On voit l'autre. C'est le modèle. C'est votre méditation. C'est votre exploration. Et ça, c'est un empêchement. Parce qu'on a chacun son rythme, chacun son énergie. Et ça, Charles, je crois, on a parlé. Hein. Donc, vraiment, il y a toute une disposition à être à l'écoute de, tiens, combien d'énergie accessible en cet instant? Quelle est? Peut-être que c'est très tranquille. Et à ce moment-là, ça a beaucoup de sens que de marcher lentement. Parce que je suis juste en lien avec ce qui est là, en tranquillité. Mais peut-être qu'il y a beaucoup d'agitation. Peut-être qu'il y a besoin d'une marche rapide. Et que progressivement, l'énergie qui est en excès peut justement se déployer un peu. Et puis qu'on peut retrouver justement un juste milieu, équilibré. Donc toute cette dimension d'énergie, d'effort, c'est aussi un rééquilibrage. Pour pas aller dans le sens de la tension inutile. Marcher très lentement nous tend, si on n'en a pas l'envie, que ce n'est pas juste pour nous. Donc chacun, chacune a vraiment le loisir, et j'espère, se donne la liberté pour découvrir ce qui est juste pour ce moment-ci. Puis après, c'est extraordinaire, parce qu'on aura l'idée ou la pensée, mais de quoi j'ai l'air? La personne à côté de moi, qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà, et puis le regard, à nouveau, hein, le regard de l'autre, c'est ma pensée. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça se trouve, il est complètement dans son vécu. Et puis, s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe pour vous. Ou s'il s'intéresse, mais c'est aussi sa pensée. Donc, là, vraiment, il y a tout un champ d'exploration extrêmement joyeux. Et on commence à pouvoir sentir la joie qui émerge, la joie de pouvoir découvrir de plus en plus de constance dans la présence. Et en étant présent, on est beaucoup plus, quelque part, confiant de pouvoir cheminer et de pouvoir aussi découvrir des choses qui sont plus difficiles à découvrir. Donc cette curiosité et tous ces facteurs bénéfiques dont j'ai parlé, eh bien, nous viennent assez naturellement. Donc, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est l'équilibre de la marche et de l'assise. On peut bien sûr avoir des temps d'assise un peu plus longs, mais ne pas faire de marche, c'est vraiment, à mon avis, un gros leurre. Et une autre raison pour laquelle et où on peut vraiment favoriser un peu plus la marche, c'est quand on est submergé. S'il y a vraiment beaucoup d'émotions, et par moments il se peut qu'on soit vraiment submergé par un flot d'émotions, et bien plutôt que de rester en assise et quelque part figé avec ça, de donner de l'énergie et du mouvement, c'est absolument aidant. Voilà pourquoi aussi la position debout dans la salle est très très aidante. Déjà là, il y a une possibilité de laisser les airs énergie circuler. Donc, si trop d'énergie dans les assises, marchez. Il y a aussi une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que si on pense qu'on va avoir une qualité de sommeil et qu'on a un bon sommeil chez soi, on n'aura sûrement pas la même qualité de sommeil en retraite. Et que par moment, en tout cas par phase, on essaye absolument d'avoir le même sommeil ou la même quantité de sommeil. Et puis, pour beaucoup de personnes, il se passe beaucoup de choses aussi. Lors de la nuit, notre énergie n'est pas la même. Il y a des choses qui sont naturellement en train de se changer, se transformer. Et puis il y a aussi toute cette dimension du subconscient qui travaille. Il se peut qu'il y ait des rêves, il se peut qu'il y ait des choses vraiment assez fortes. Si c'est le cas, ben, c'est tout à fait normal. Donc il n'y a rien d'inquiétant. S'il y a des choses vraiment inquiétantes, c'est important de nous les communiquer. Mais le temps aussi. C'est-à-dire quand on va se coucher à 9h30, 10h et puis que le gong sonne à 6h30, ça fait beaucoup, beaucoup d'heures de sommeil. Alors qu'on n'a pas beaucoup déployé d'énergie dans la journée. Donc ça, on se dit, mais je devrais dormir de 10h à... C'est beaucoup trop. Donc on peut très bien aussi méditer, coucher. Tranquillement. Plutôt que justement essayer absolument de se forcer et de trouver le sommeil, vous pouvez très bien demeurer tranquillement sur votre lit et sans devoir vous lever. Si vous avez envie de vous lever, vous pouvez, mais la position couchée est aussi une position de méditation. Au moment d'aller se coucher ou avant le réveil ou dans la nuit, et de pouvoir naturellement continuer. Alors, vous me dites, mais alors ça s'éteint jamais, quand est-ce que je peux vraiment débrancher? D'une manière très claire, plus vous allez être détendu, plus vous allez être en présence, plus il va y avoir une circulation d'énergie qui fait que plutôt qu'il y ait des blocs d'énergie, puis que il y a un cumul, ça circule. Donc ça passe. Mais c'est vrai que on n'a pas besoin d'autant d'heures de sommeil. Donc, ne pas s'inquiéter à ce niveau-là. Voilà les quelques remarques que je pouvais dire. Donc, un effort léger et subtil qui s'autogénère au fil du temps Et vraiment, essayez de vous rappeler de la continuité.